MDM, c'est pas parce qu'on n'est pas d'ici qu'on n'est pas de là.
MDM.
Et bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Mais quel week-end à venir pour le Théâtre du Peglet et ses représentants et ses représentantes. Bonjour Aurélia Bartholomé.
Bonjour.
Bonjour Laurence Nietzvecki.
Bonjour.
Et puis philosophie aussi, parce qu'on va en causer. Bienvenue à vous Sophie Geoffrion.
Bonjour.
Je me souviens, vous avez reçu il y a quelques... Oh là là, moi de cela pour évoquer un autre rendez-vous que vous aviez eu avec le Théâtre des Lumières, hein, avec ce lien entre, pas évident forcément à la première approche, entre le théâtre et la philosophie, ce sera le cas ce soir. Et quand je causais de week-end enflammé, c'est que demain, le Théâtre du Peglet sera à nouveau le décor donc, de ces lectures goûtées. On va essayer d'évoquer tout ça, hein, et on va essayer de le faire avec le plus d'expertise possible, en commençant par ce qui va nous occuper ce soir, à savoir donc cette soirée, la philosophie en avant-scène sur le thème de l'amour. Demandez le programme et comment que ça va s'organiser cette histoire, dites-moi.
On va laisser la parole à Sophie qui voilà, est à l'origine de cette proposition particulière et unique.
Ouais.
Oui, merci. Oui, effectivement, la philosophie en avant-scène, c'est une proposition un petit peu insolite qui associe le théâtre, mm-hmm. le spectacle vivant, et la philosophie qui est une activité qu'on considère un peu plus réflexive, introspective, etc. Mais en réalité, il n'en est rien, parce que pour philosopher, il faut philosopher à partir du monde. Et donc le théâtre permet d'être ce réceptacle, ce détonateur qui fait jaillir la pensée. Mm-hmm. Donc en fait, le concept même, c'est d'abord du théâtre et après... un temps de philosophie, un bord de scène, un échange avec le public, que mm-hmm. moi je mène avec le public.
Ben, les réactions du public par rapport à ce qui se sera passé devant, ces lectures qu'on va évoquer avec mm-hmm. les mots, les plumes qui seront proposées ce soir au Théâtre du Peglet. Donc a priori, Sophie, pas de préparation particulière, vous avez, j'imagine, quelques grandes voies de pour commencer à ouvrir le dialogue.
Oui, mais bien sûr, j'ai la philosophie, l'histoire de la philosophie et de la pensée qui a traité, retraité, surtraité la question de l'amour, mm-hmm. puisqu'il s'agit de parler d'amour. Et le regard du philosophe est un petit peu particulier hein, concernant l'amour. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le public. C'est de philosopher à partir de ce que va me dire, des idées et des questions du public. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. C'est une vraie expérience de pensée, mais ça reste de la philosophie, parce que ça, j'y tiens, mais de manière... j'allais dire ludique, ouais. et simple.
Et puis partir de ce que vous avez au cas, c'est-à-dire que vraiment de la base, de ce qu'on ressent, de l'amour, oui. de ce que ça peut évoquer pour chacun.
Absolument.
Quoi.
Hein. Oui,
c'est ça
sûr,
aussi que
sûr.
La philosophie permet, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, on se fait une image comme ça, un petit peu, ah, philosophie, tout ça, machin, ça peut être un petit peu... Alors qu'en fait, voilà, c'est sur cette expérience-là, du concret, ouais. que l'on part. Quoi.
Ouais, on part ouais. vraiment du concret. Quoi. Mmh. Tout le monde a vécu des histoires d'amour. Tout le monde n'a peut-être pas vécu un coup de foudre, mais enfin du coup de foudre à la rupture, en passant par les aléas du désir, de la peur d'abandon, des réjouissances ou de l'extase des commencements. Tout le monde a connu ça. Mm-hmm. Est-ce que ça doit durer l'amour? Est-ce que ça ne doit pas durer? Est-ce que ça fait mal? Et si ça fait mal, mais pourquoi tout le temps on replonge là-dedans? Voilà, ce sont des questions simples que nous sommes tous posées à un moment ou à un autre. Dois-je le quitter? Dois-je rester? Je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans elle. La passion amoureuse,
ah, c'est pas c'est ce que j'allais le dire, c'est le moment où on ne sait plus où
faire. La passion,
c'est plus
où on est totalement dépossédé de soi, mais c'est quoi cette histoire-là? Comment ça se fait que tout ce que fait l'autre, je trouve tout à coup que c'est formidable? Est-ce que je suis encore moi-même quand j'aime? Voilà, la question du compromis. Toutes ces questions, en fait, nous les posons et elles sont ordinaires. Et donc, tout le spectacle reprend, en fait, une histoire d'amour, on va dire des commencements, aux accros, à l'habitude, à la routine, jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit cette fin. Et puis on se demande à quoi bon, quoi, qu'est-ce qui reste des frissons et du début à la mm-hmm. fin. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va proposer.
Puis peut-on l'entretenir? Qu'est-ce qu'il devient, ce toujours de l'amour, quand on vit des années?
Oui, voilà, est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'on doit être soi-même? Est-ce qu'on ne s'illusionne pas? Est-ce que c'est forcément une tragique, l'amour? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose de plus simple et de plus ordinaire que ça?
Mm-hmm.
Et puis, là, on parle de l'amour amoureux, mais l'amour, il y a une autre dimension. L'amour, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour parental, c'est l'amour... c'est l'amitié aussi. Mm-hmm. L'amour, c'est l'amitié. Mm-hmm. C'est la question de la charité. Tout ça, c'est l'amour.
Mmh. Je me permettrai de revenir vers vous, Sophie, si vous pouvez nous donner quelques pistes comme ça sur quelques philosophes et quelques pensées qui pourraient aussi éclairer ma lanterne, parce que ce serait bien de passer bien aussi par les textes qui seront lus, parce que j'imagine que dans ce registre-là de l'amour en littérature ou enfin bref, ça n'en manque pas en théâtre, j'imagine, Aurélia et Laurence.
Ah oui, c'est vrai que ça ne manque pas, le sujet est très très vaste, et c'est vrai qu'après il a fallu faire le choix de textes, donc là, avec avec Sophie, on a travaillé pour avoir un sens par rapport à la proposition de la soirée, qui se chapitre donc en trois chapitres, ces moments du début, comme le disait Sophie, cette vie qui se fait à deux, et puis après, parfois ça s'arrête, cette rupture, cette fin. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ça, Aurélia et moi, nous serons deux amis qui discutons, s'interrogeons sur l'amour, ce qu'on éprouve l'une l'autre, et au travers de textes qui illustreront à chaque fois les propos. Donc on va être dans la philosophie avec les textes de Platon, Schopenhauer, qui sont un petit peu pas âpres, mais voilà, qui interrogent réellement. Après, il y a des choses un peu plus légères avec Belle du Seigneur de Cohen, grand livre sur l'amour, entre guillemets, parce que c'est très particulier cette histoire. Mm-hmm. Dans le théâtre, on a Pagnol.
Attendez, je crois que j'ai...
De Marius.
Voilà, c'est ça. Ah, et la lumière fuit. J'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton. Pardon, Aurélie, en fait.
Oui, et puis en théâtre, on aura aussi Pagnol avec Marius. Et une très très belle scène de sacrifice entre Fanny et Marius. Il y aura il y aura Phèdre, un extrait de Phèdre avec l'aveu de l'amour de Phèdre pour Hippolyte. Et ensuite, des extraits de romans que la plupart du grand public connaissent, comme Duras, L'Amant, ou François Sagan, par exemple. Voilà, donc tout un panel très intéressant que nous, on a grand plaisir à porter, qui nous interroge nous aussi, et qui va dans le sens aussi de notre travail de comédien, c'est-à-dire que là, on accompagne une démarche philosophique qui est de s'interroger sur des thèmes ou sur le monde, mais dans notre démarche aussi d'acteur, le théâtre, c'est aussi ça. Quand on monte une pièce de théâtre, c'est que on espère que le public va sortir en se posant des questions. On espère que le théâtre peut être aussi un éveilleur de conscience. Donc, quelque part, ces deux arts se rejoignent, et on est vraiment ravis de cette collaboration avec Phil Hollande et Sophie Geoffrion, puisque on se rejoint en tout cas sur ces deux points.
Alors, signalez que c'est à partir de 20h hein, ce soir, donc ce vendredi au Théâtre des Lumières. Vous avez une idée de la première partie de lecture, de combien de temps ça peut durer, le temps de ces lectures, Laurence?
On va être, sur
une quarantaine de minutes.
Oui, 45 minutes à peu près. Oui, oui, 40-45 minutes, première partie, et puis après la deuxième partie avec Sophie.
La deuxième partie, donc, ouais. Avec le public.
Et le public, bien sûr.
Le public. Vous venez, les amis, si vous avez un petit peu de temps ce soir, et puis surtout de réfléchir autour de cette thématique de l'amour. Enfin, y réfléchir, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'avoir quelques petites pistes comme ça, philosophiques, avec Sophie. Vos questions, vos interrogations, et le dialogue qui va s'en suivre. Je voulais revenir vers vous, Sophie, par rapport à justement ce thème de l'amour. Et au niveau philosophique, si vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, quelques axes de réflexion, quelques auteurs, quelques penseurs comme ça, que vous pourriez conseiller pour se dépatouiller de tout ça. Se dépatouiller.
Vous avez combien de temps?
Si vous pouviez me résumer ça en une petite dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Non, mais j'imagine bien. Ouais,
non,
c'est
mais
infini,
en fait,
c'est
bien évidemment que enfin bon, c'est infini, je cherche mes mots déjà. Ouais, ouais. C'est mal parti. Non, mais on peut déjà commencer par par le début en philosophie,
c'est-à-dire
par Platon. Ouais. La question de l'amour de l'éros chez Platon est longuement traitée, notamment dans un dialogue qui s'appelle Le Banquet, mm-hmm. Où quelques convives se retrouvent justement pour parler de l'amour. Et c'est là que chacun parle, chacun donne sa définition. Et en réalité, ce qui est sous-jacent, c'est l'intervention, et ce qui est le plus important, comme dans tous les dialogues de Platon, c'est l'intervention de Socrate, qui intervient évidemment à la fin, qui calme un petit peu tout le monde, et qui explique que l'amour, c'est d'abord un désir. Donc, chez Platon, l'amour est désir. Mais désir de quoi? Désir quelque chose que je n'ai pas. Donc, ça veut dire que nous sommes incomplets et que nous sommes habités par une forme de désir pour combler ce manque. Donc, en fait, l'amour est désir, dans un premier temps, et éros, pour combler ce que je n'ai pas. Mais Platon ne s'arrête pas là. Il, 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 une hiérarchise, hein, comme souvent dans les écoles antiques, on appelle ça hypostasié. Bon, c'est un terme un peu compliqué, mais enfin, voilà, il fait plusieurs étapes. Il dit que l'amour est trois choses. Ça peut être l'éros, donc le désir des corps, le désir de génération, le désir d'enfantement pour perpétuer l'humanité. Mais dans un second temps, le désir, c'est philia. Philia, c'est l'amitié, c'est-à-dire c'est un amour sans l'amour des corps, c'est un amour sincère, réciproque, gratuit, j'ai envie de dire, mais pas totalement gratuit, puisqu'on est encore intéressé par l'autre. L'amitié, dans toutes les écoles antiques, est fondamentale, et elle est supérieure à l'éros, d'ailleurs. Et puis après, il y a un troisième niveau dans la question de l'amour, selon Platon, c'est agapé. Agapé, c'est la charité un peu, c'est-à-dire que c'est vraiment cet amour gratuit. Donc déjà, quand on prend le système platonicien et qu'on part de cette base, qui est le début et l'émergence, il y avait ce présocratique, mais toute l'histoire de la philosophie n'est qu'un commentaire quand même de Platon, quand on part de là, on s'aperçoit que l'amour, c'est pas uniquement le désir de l'autre, c'est plus compliqué. Donc chez Platon, l'amour, c'est le désir, alors désir absolu, c'est-à-dire de philosophie, de beauté, de vérité, de bien, des grandes, grandes idées platoniciennes qui sont dans le ciel des idées. Évidemment, ça, c'est un point de vue.
On est passé, évidemment, par l'étape amour platonique, là, dans ce que vous avez évoqué.
Aussi,
sur la deuxième, c'est ça, la première,
ouais,
c'était...
Ça, c'est ça.
Je me suis dit, j'ai l'illumination.
Oui, mais bien sûr, mais vous voyez, l'amour platonique, tout le monde sait ce que c'est sans savoir ce que c'est.
Ah, c'est ça,
c'est encore de l'amour, si on ne passe pas par le corps, si on ne s'aime pas, bon, bref, c'est un peu compliqué. En fait, l'amour, c'est un désir, c'est désir de ce que je n'ai pas. Bon, alors, évidemment, on prend un autre système de pensée qui est Spinoza, par exemple, ou la question de la joie. Là, l'amour n'est pas désir de manque, mais l'amour est une forme de dépassement de soi. Grâce à l'amour, je vais m'augmenter. Donc l'amour est une manière d'augmenter et non pas de combler ce que je n'ai pas. C'est-à-dire de m'augmenter, de m'édifier, d'ajouter quelque chose à moi. Et c'est une dynamique de vie. Donc c'est un désir, mais c'est un désir de dépassement. C'est toujours un désir. Le désir est un moteur chez l'être humain. Bon, ça c'est des points de vue. Ensuite, on peut prendre Schopenhauer.
Spinoza, on est à quel siècle, pardon, Sophie,
c'était 17e. Quoi
17e.
Après,
okay.
on a Schopenhauer un peu plus tardivement, qu'on évoque d'ailleurs pendant le spectacle. Alors là, c'est une forme de réduction, alors, encore quand je dis ça. Bon, l'amour, c'est uniquement de la biologie. Nous sommes des êtres biologiques. C'est uniquement quelque chose presque d'hormonal qui fait que nous sommes attirés les uns pour les autres, par les autres. C'est même pas la peine d'y voir une forme de romance ou autre. Bon, il y a tout un panel, bien évidemment. On pourrait prendre chaque système de pensée. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'amour n'est pas qu'une question sentimentale ou émotionnelle. L'amour est vraiment une question philosophique. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut se passer véritablement d'amour dans une vie humaine? Il me semble que non. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce sentiment? Est-ce que, une fois qu'on a vie de couple... Alors après, l'amour, surtout aujourd'hui, enfin, il a toujours été... n'est pas forcément dans ce schéma couple à deux, voilà, hein, on peut l'inventer. L'amour, c'est une énergie, c'est une force dont on se nourrit, qui peut détruire, qui peut être douloureuse. Et même si c'est douloureux, chaque fois qu'on en fait l'expérience, quand ça s'apaise un petit peu, on replonge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez l'être humain, et dans l'être humain, qui fait qu'il ne peut pas se passer d'amour. Alors peut-être, parce que l'être humain est un être d'amour avant tout. Et contrairement à d'autres espèces, il a cette nécessité, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un désir, c'est vraiment un besoin d'amour. L'être humain a besoin d'amour. Et là, il n'y a pas que les philosophes, la chanson, et toutes les chansons, les répertoires de chansons.
On avait eu une thématique, une semaine, se confère les matijanales autour de l'amour. Moi, je pensais à la retraite. Au moment, on a coupé, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que les chansons d'amour,
chansons d'amour, et pourquoi elles fonctionnent à ce point-là? Parce qu'elles nous parlent, mais elles nous parlent profondément. Nous sommes dans cette... on est des êtres secs sans amour. C'est une grande sécheresse. Or, l'être humain a un cœur qui bat, qui est de forme, qui doit être irrigué, qui s'irrigue par ce battement. Et ce battement, c'est la vie. Et vraiment, on a besoin d'amour.
Est-ce qu'on peut apprendre à aimer, Sophie, quand on a l'impression de, ben, justement, souvent subir, quand on est amoureuse ou amoureux et qu'on souffre trop vite, on ne fonctionne que sur le passionnel? Peut-on apprendre ça comme ça en passant, hein,
juste... Alors, oui, mais moi, je ne sais pas si on apprend de ses expériences. Je pense qu'on se plante tout le temps.
Ouais.
Alors, je suis un peu négative en disant ça. Mais bien sûr, on peut apprendre à aimer, mais on peut apprendre à aimer en aimant. Donc, vous voyez, il n'y a pas une école de l'amour. Il n'y a pas un mode d'emploi. pas plus que pour vivre d'ailleurs. Il peut y avoir des règles, il peut y avoir des interdits qu'on se fixe à soi-même. C'est-à-dire qu'on peut se gouverner soi-même dans la question de l'amour et dire, bon, il y a cette limite-là, non, là, je ne vais pas y aller. Mais par amour, on est capable de tout aussi. Mm-hmm. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas que la passion. Hein. Je pense que la passion, ce n'est pas de l'amour.
Oui, oui.
La passion, c'est une dépossession. La passion, c'est une dépossession de soi. Mm-hmm. C'est une forme d'aveuglement. Et c'est quelque chose de très douloureux qui ne dure absolument pas. Mm-hmm. Puisque ça s'éteint. C'est Lacan qui racontait cette histoire de deux amoureux qui étaient épris l'un de l'autre, mais de manière absolue, c'est-à-dire elle, tout ce qu'elle disait, ça devenait lui. Et puis un jour, ils vont au cinéma ensemble, et puis on regarde un film, ils sont amoureux, alors il y a des papillons partout, enfin, c'est le grand, grand bonheur. Et puis elle se déchausse, et puis émane donc de ses chaussettes une certaine odeur. Donc vous voyez, c'est ce retour au réel. Et lui, il a immédiatement cessé de l'aimer. C'est-à-dire que dans l'acte amoureux, et dans les prémices aussi de l'amour, et dans les débuts de l'amour, tous ces commencements, il y a une forme d'illusion et d'idéalisation, ce qui fait qu'on se déconnecte du réel. Parce que c'est bien aussi, on voyage, on part un peu plus haut. Et puis quand le réel revient, c'est l'épreuve vraiment de l'amour. Et l'amour, enfin c'est Alain Badiou qui dit ça, et d'ailleurs je commence ce soir en lisant ce texte-là. L'amour, est-ce que c'est uniquement le début et l'extase? Est-ce que c'est pas plutôt la construction? C'est-à-dire durer, ne pas s'échapper aux moindres accros, ne pas fuir s'il y a un petit problème. Est-ce que c'est pas tenir justement? Est-ce que c'est pas s'obstiner? Est-ce que c'est pas s'entêter? C'est ça aussi la question de l'amour dans la construction. Mais même loin du cadre familial, des enfants, etc. Juste l'amour, est-ce que c'est pas tenir suffisamment à l'autre pour accepter l'autre tel qu'il est. Donc ouvrir un petit peu au fur et à mesure de la relation les yeux et puis le prendre tel qu'il est. Quoi. Mm-hmm. Ou tel qu'elle est, bien sûr. Mm-hmm. Évidemment.
Et la réflexion et le dialogue peut être évidemment infini parce qu'il n'y a pas de fait en tout ça. C'est une interrogation perpétuelle qu'on n'arrive jamais au bout d'une certitude sur tout ça.
Absolument.
De toute façon, la philosophie,
pas la réponse.
Il n'y a pas de réponse particulière.
Non, c'est l'art du questionnement. Voilà. Vous avez raison. C'est l'art du questionnement. Il n'y a pas de réponse. C'est la réponse fait taire la question. Donc, par définition, il n'y a plus de philo.
Pas m'inventer, vous m'avez dit que j'avais raison et tout. Je vais prendre des trucs comme ça. On a envie de ces émotions, quoi. Ouais, et puis je sais pas, bon, est-ce que c'est pas nous qu'on aime à travers l'autre aussi? Il y a des choses comme ça, ce qui paraît parfois.
Parce mais que, venez ce soir pour.
Essayer de trouver le moment de venir faire un tour. Non, mais participer à ce dialogue, évidemment, ces lectures. Mais tout à fait. Pour ce premier rendez-vous du Théâtre des Lumières, ce soir au Théâtre du Pélégan. Alors avant, parce qu'on n'entend pas le temps passer sur nos ondes, on va quand même vous coller le rendez-vous demain aussi. Parce que demain, lecture goûtée, le Théâtre du Lumière, allez. Eh oui.
Petit week-end.
Bienvenue en Méditerranée aussi, c'est ça, hein?
Oui, exactement. Depuis une quinzaine d'années qu'on propose ce rendez-vous, on voyage beaucoup. On a fait beaucoup, beaucoup de pays. Et là, on a fait un petit recueil, enfin un petit assemblage de contes de la Méditerranée. Alors c'est toujours un petit voyage littéraire, musical qu'on propose au jeune public à partir de 6 ans. Mmh. Mais c'est aussi un rendez-vous familial, hein, puisque les parents évidemment sont conviés, se régalent tout autant que les enfants. Et on va voyager à travers des contes de la Méditerranée, où magie, contes initiatiques, parcours initiatiques vont se succéder.
Là aussi, les escales peuvent être assez vastes aussi, hein, sur la Méditerranée. Je pense que vous passez du Maroc à l'Espagne, un petit tour en Turquie aussi.
Tout à fait. Donc, on voyage. Mm-hmm. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est depuis 15 ans, ça nous permet aussi à nous de nous nourrir de toutes ces lectures, de tous ces contes, de ces personnages qui sont toujours aussi fantastiques. Et en même temps, voilà, on est dans toujours cette idée de l'initiatique, de la découverte. Donc, c'est pour le jeune public toujours quelque chose d'extrêmement intéressant et pour lequel ils répondent présent.
Vous avez parlé d'accompagnement musical demain aussi, alors?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours. On n'est pas juste dans une simple lecture, on est dans une mise en espace. Avec création lumière, bande sonore qui va nous faire voyager aussi à travers chaque pays de la Méditerranée. Mmh. Donc c'est aussi une sensibilisation sur la culture musicale du pays qui sera évoquée. Mmh. Et juste dire que le principe quand même des lectures goûtées, c'est la convivialité. C'est qu'à l'issue de la... C'est ce que tu allais peut-être nous demander, Jeannot, je ne sais pas. À l'issue de la lecture goûtée, il y a un goûter qui est offert aux parents, enfants, à tous les spectateurs, pour poursuivre ce moment qu'on a passé ensemble à travers ce voyage littéraire. Et on aime bien, nous, poursuivre comme ça ces moments de partage. Qu'on ne rentre pas chez soi...
Frustré,
bon, voilà, ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on fait avec les apéritifs lectures aussi.
Ouais, bien sûr.
C'est, nous, on est ravis qu'on termine les lectures aussi pour les apéritifs lectures. Les gens restent, nous demandent les références des bouquins, nous disent ce qu'ils ont aimé. On boit un petit verre, interrogent beaucoup les musiciens sur leurs instruments. Enfin, c'est ce qui s'est passé la dernière fois.
Et oui, parce qu'il y avait Francis Passicos qui nous accompagnait la dernière fois.
Ouais,
et
ouais,
ces instruments orientaux, ils ont dû bien interroger le public
énormément,
venu.
Ben oui. Énormément.
C'était magnifique.
C'est chouette.
Ils ont posé plein de questions. Ouais. Il a fait une démonstration après. Et donc, voilà, on est dans l'humain, là, on est dans le partage et c'est ce qu'on aime.
Là, la lecture goûtée, c'est à partir de 15h30, hein, demain, oui, au Théâtre du Péglé, sur l'affiche, il y a ça, donc c'est autour d'eux, bienvenue, et puis c'est parti pour ce voyage Méditerranée, avec toujours l'accompagnement musical que vous faites. Et je tiens à noter aussi qu'il y a souvent des élèves du Conservatoire départemental de musique et de danse des Landes qui viennent nous accompagner.
C'est vrai.
C'est l'occasion de noter, de dire que c'est bien aussi de mettre à contribution ces jeunes musiciens, ou moins jeunes d'ailleurs, pour accompagner tout ça et mettre un petit peu de la curiosité. Oh, cette phrase est bien trop longue. Et comment est-ce que philosophiquement, il y a des choses comme ça ? Parce que quand on s'embarque, bah, on a des tunnels, on n'en finit plus de vouloir dire et redire et re-redire. Et, oh là 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 là. Après, on ne comprend plus rien. Mais là, on a compris quand même un petit peu que c'est de rendez-vous. Philolande et vos aventures, Sophie Geoffrion, vous les déclinez tout au long de l'année avec le Théâtre des Lumières,
oui,
mais aussi avec d'autres rendez-vous parfois.
Oui, avec d'autres rendez-vous. Alors, Philolande, c'est vraiment une association déjà qui a pour but de développer, de diffuser toutes les pratiques philosophiques. Et nous avons plusieurs cordes à notre arc. Donc, il y a la partie théâtre, création de spectacles, il y a la partie atelier jeunesse, il y a la partie conférence, bien évidemment, il y a la partie consultation aussi, parce qu'il y a des consultations philosophiques. Donc, il y a donc il y a plein de projets en cours, mais concernant le théâtre, le spectacle dans les Landes, c'est celui-ci.
Ouais, et puis, avons travaillé ensemble et on poursuit autour de notre spectacle. Les enfants aussi font la guerre, puisque dans les actions de médiation qui accompagnent ce spectacle, Sophie intervient avec Laurence dans les classes autour de la question de l'enfance et de la guerre, avec une petite partie théâtre qui est suivie ensuite.
Et une partie philo.
Et une partie qui est suivie d'une partie d'échange philosophique avec Sophie et les élèves. Donc on essaie vraiment de poursuivre ce partenariat qui nous semble nécessaire et passionnant.
Et cette année 2024 sera l'occasion de rendez-vous autour de ce spectacle,
ouais,
et de cette atmosphère.
Oui, ouais, tout à fait.
Parfait. On relaiera quand on le saura, mais on le sait parce que vous nous tenez au courant du programme du Théâtre des Lumières et de tous ces rendez-vous. Une petite dernière question comme ça, perso. Sophie, est-ce que vous auriez un petit un philosophe assez récent à nous conseiller? Il y en a que vous découvrez encore au fur et à mesure de vos lectures
Bien évidemment.
Ouais, toujours.
Oh là là, grand Dieu, grand
qui c'est qui vous occupe actuellement, rien de particulier
Concernant la question de l'amour, je pense que l'éloge de l'amour dans la Badiou est intéressant.
D'accord.
Ouais, vraiment. Éloge de l'amour, c'est un tout petit bouquin, c'est une conversation avec Nicolas Truong, qui est journaliste monde des idées du Monde.
Mm-hmm.
Et ils ont fait cette conférence, notamment à Avignon. Et Badiou est philosophe, mais il a fait cet éloge de l'amour, qui est très intéressant, parce que c'est toujours bien de penser à partir de notre époque et pas toujours revenir sur ce qui se passait autrefois, parce que de toute façon, il faut toujours contextualiser la réflexion. Et Badiou, ouais, il reprend cette question. Aujourd'hui, on a besoin de garanties, on a besoin avec tous les réseaux sociaux qui cherchent à créer des rencontres. Et il revient un petit peu là-dessus. Et je trouve que c'est très intéressant. Éloge de l'amour, Anne Badiou.
Alors, je me permets de le noter. Je pense qu'il doit être sans doute du côté de la médiathèque Philippe Labéry, je pensais, parce qu'ils ont un registre philo qui nous permet de faire des phrases qui vont s'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci, Jeannot.
Aurélia, Laurence et Sophie de votre venue. Puis je rappelle le rendez-vous. Donc c'est ce soir au Théâtre du Péglé pour le rendez-vous avec Sophie à partir de 20h pour ce Philolande et la philosophie et l'amour. Et puis demain à partir de 15h30 pour la lecture goûtée, toujours au Théâtre du Péglé. On va philosopher en musique, si vous le voulez bien. J'ai fait plouf-plouf. J'aime bien quand on aborde la philosophie. J'aime bien inviter Georges Moustaki à chaque fois. Vous savez, en avant, toute la vie pour nous. Hein, on se fait ça juste pour le plaisir.
Ouais, allez. Avec plaisir.
Allez. Et encore merci. Et je le week-end, on va essayer de caler le rendez-vous ce soir, promis.
Merci.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant. Saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre. Et comme soyez fous et comme soyez ivres. Car leur seule folie, c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont. Des viveurs d'utopie aux étranges façons. Des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer.
MDM, la radio que l'on...
Non.